Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonsoir à tous. Sauver des vies est un devoir, pas un crime. C'est pas nous, les pirates, dont toute l'Europe, des milliers de personnes ont apporté aujourd'hui leur soutien à l'ONG SOS Méditerranée. Clotilde Ravel était dans le cortège parisien. Elles sont des milliers à manifester leur colère à Washington à quelques heures de la nomination à la Cour suprême de Brett Kavanaugh, juge conservateur, accusé d'agression sexuelle. Retour en France où il fut question de défendre la parole des femmes victimes de violences conjugales, rassemblement devant le palais de justice de Paris. Elle avait une voix délicieuse, la soprano Montserrat Caballé s'en est allée. Sa voix et sa douceur resteront toujours avec nous, ce sont là les mots du Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez. Porter secours aux réfugiés en perdition à bord d'embarcations de fortune en Méditerranée relève de l'exploit, qui plus est quand les verrous politiques s'accumulent. SOS Méditerranée peut en témoigner. Son navire, l'Aquarius, est privé de pavillon et les ports d'accueil se font rares. À Palerme, à Berlin, à Toulouse, des milliers de personnes ont affiché leur soutien aux équipes de SOS Méditerranée. Clotilde de Ravel, vous étiez place de la République à Paris.
Oui, à Paris, c'est une petite marée orange qui s'était rassemblée place de la République. Orange comme les gilets de sauvetage fournis par SOS Méditerranée aux rescapés. Orange aussi comme la coque de l'Aquarius, ce bateau sans pavillon depuis fin septembre. Les centaines de personnes présentes réclamaient d'ailleurs un pavillon français pour l'Aquarius. Et les manifestants étaient venus en famille. Au cœur du rassemblement, on pouvait voir des enfants construire des bateaux en papier, symbole de la fragilité des embarcations de fortune empruntées par les migrants. Des manifestants venus en citoyens, car le rassemblement se voulait transpartisan. Alors au cœur de la foule, il y avait bien quelques banderoles NPA, des casquettes France Insoumise et des autocollants PCF, mais surtout des hommes et des femmes venus dire leur révolte face à cette crise traversée par l'Europe et dont l'Aquarius fait les frais.
La révolte, Clotilde, justement, les manifestants étaient aussi très remontés contre les militants de Génération Identitaire qui, rappelons-le, ont envahi hier les locaux marseillais de SOS Méditerranée.
Eux, on ne les empêche pas de mener leurs actions. Eux, ils bloquent les frontières en toute impunité, me disaient les manifestants en référence à l'action du groupe au col de l'échelle en avril dernier. Alors aujourd'hui, l'orchestre et les tambours voulaient faire du bruit pour couvrir celui de l'extrême droite, disent-ils, le recouvrir par des paroles de fraternité pour la défense de la dignité humaine. Car les responsables de SOS Méditerranée et de Médecins Sans Frontières l'ont rappelé, 22 000 migrants sont décédés en mer en tentant de gagner l'Europe depuis l'année 2000. Et aujourd'hui, ils souhaitent éviter à tout prix que le pavillon finisse, pour paraphraser l'une des pancartes dans la manifestation, 20 000 lieues sous la mer.
Merci à vous, Clotilde Ravel. La garde à vue, je le glisse au passage, des militants d'extrême droite qui ont envahi hier les locaux marseillais de SOS Méditerranée a été prolongée. D'où viennent ces femmes et ces hommes? Que fuient-ils? Le terrorisme qui enfle au Burkina Faso, frontière du Mali et du Niger. Aujourd'hui, 6 policiers sont morts dans l'explosion d'un engin artisanal dans le nord du Burkina. Hier, 6 soldats ont péri dans des conditions similaires dans l'est du pays. Que fuient-ils? La guerre et ses incessants combats qui ensanglantent l'Afghanistan. Au centre du pays, l'armée régulière fait face depuis des semaines à une vive résistance talibane. Des talibans qui, aujourd'hui, ce samedi, ont détruit des ponts près de la ville de Ghazni. La guerre et les famines. Et que dire de la misère économique, de la pauvreté endémique, du népotisme, de la corruption. Au Brésil, pas de guerre ouverte, mais beaucoup de ressentiment. Et en pareil cas, les élections riment avec sanctions. C'est précisément ce qui fauche les espoirs du Parti des Travailleurs, celui de Lula en prison, de Dilma Rousseff, destitué. Jair Bolsonaro, le candidat de l'extrême droite, grand favori de la présidentielle de demain, bénéficie justement du dégagisme à l'œuvre au Brésil. C'est un reportage d'Olivier Poujade.
Lula quittait le pouvoir en 2010 avec plus de 80% d'opinion favorable. Aujourd'hui, près de la moitié des Brésiliens disent vouloir se débarrasser du PT, le Parti des Travailleurs. Paolo fait partie de cela.
C'est un rejet par rapport à ce qu'ils ont fait. Ils ont dit une chose et en ont fait une autre. Le discours du Parti des Travailleurs lors de la première élection de Lula, c'était le Parti des Travailleurs ne vous volera pas. Ça a été le contraire. Ils ont institutionnalisé la corruption. Et donc la seule certitude que j'ai, c'est le Parti des Travailleurs, non.
Non. Même si des hommes politiques de tous bords sont impliqués, c'est le PT qui incarne aujourd'hui la corruption. Eduardo Gomes rejette cet amalgame, mais estime que ce parti doit reconnaître ses erreurs.
Il y a un minimum d'autocritique à faire. Ce qu'on voit aujourd'hui sortir du placard pour faire l'apologie de la violence, le font à cause des politiques que nous avons menées. C'est la responsabilité du Parti des Travailleurs.
Le candidat du PT, Fernando Haddad, persiste pourtant à défendre les bilans de Lula et Dilma sans prendre ses distances. Probablement une erreur stratégique dans cette campagne, une aubaine pour Bolsonaro, le candidat d'extrême droite.
Jair Bolsonaro, massivement soutenu par l'électorat évangéliste grâce à son hostilité à la légalisation de l'avortement, du mariage homosexuel, trouvera à qui parler sur le continent nord-américain, à Brett Kavanaugh, par exemple, futur juge de la Cour suprême, c'est une histoire d'heure. Le Sénat américain devrait sous peu confirmer sa nomination à la haute juridiction, nomination à vie, moyennant une enquête du FBI sur le tard accusé d'agression sexuelle. Ce magistrat conservateur, soutenu à corps et à cri par Donald Trump, dira le droit, ce qui ulcère quantité de collectifs de femmes. Depuis quelques heures, elles sont des centaines rassemblées à Washington. Bonsoir, Pauline Simonet.
Bonsoir.
Pauline, que dire des appréhensions de ces Américaines ?
Alors c'est vrai que ces femmes, elles sont nombreuses et elles sont en plusieurs endroits, elles sont dispersées. Hein, devant le Capitole, elles ont venu ici venir dire leur colère parce qu'en fait il n'y a plus beaucoup de doutes. On sait depuis hier que les sénateurs clés côté républicain ont décidé de choisir leur camp. Ils vont voter pour la validation, la nomination de Brett Kavanaugh, le candidat de Donald Trump à la Cour suprême, malgré les accusations d'agression sexuelle. Donc, shame on you, honte sur vous, on entend dans cette foule, ou encore, Saint-Sorant, qu'on entend énormément, we will remember in November. Nous nous souviendrons au mois de novembre, parce que c'est pour ça aussi que cette affaire est tellement chaude ici aux États-Unis, passionne autant les Américains. Nous sommes à quelques semaines des élections, demi-mandat le 6 novembre, elle s'annonce très serrée, et le vote des femmes est décrit comme décisive, cruciale. Donc, parmi ces femmes qui viennent de partout, hein, j'en ai vu de Californie, du Wisconsin ou encore du Texas, eh bien, elles disent qu'elles feront la différence dans les urnes, elles crieront leur colère dans les urnes pour punir les sénateurs républicains qui ont validé ce candidat qu'elles dénoncent comme un candidat non seulement accusé d'agression sexuelle, mais très très conservateur et qui risque notamment de mettre en péril le droit à l'avortement.
Merci à vous, Pauline Simonet, en direct de Washington, de l'autre côté de l'Atlantique. C'est la parole des femmes victimes de violences conjugales qui a été portée par des centaines de personnes dans les rues de Paris. La souffrance est la plupart du temps niée, piétinée. Devant le palais de justice de la capitale, des femmes et des hommes ont réclamé une meilleure prise en charge, prise en compte de la justice. Clémence Fraboulet est responsable d'une association locale d'aide aux victimes dans le département de l'Ain.
Il faut que les choses, elles bougent. C'est surtout pour ça que je suis là aujourd'hui. Le palais de justice, ça a quand même une connotation très forte. Aujourd'hui, ce qu'on est venu dire à la justice, c'est qu'elle n'est pas à la hauteur des souffrances des femmes et qu'il y a tellement de choses à faire et qu'il serait temps qu'ils prennent vraiment conscience de ce qu'est vraiment, véritablement, la violence conjugale, comment ça fonctionne. Quand une femme va dans un commissariat de police ou une gendarmerie pour déposer plainte et qu'on lui répond « Mais madame, ça fait 10 ans que vous y êtes. Si vous y êtes toujours, c'est qu'il y a une raison. » C'est juste pas pensable. On n'a pas le droit de dire ce genre de choses.
Ça arrive encore.
Ça arrive encore, bien sûr. Ou alors qu'on ferme la porte carrément à des femmes qui sont victimes, qui mettent un temps infini des fois à pousser la porte du commissariat et qu'on lui dit « Non mais madame, vous n'avez pas de preuves. Vous pouvez rentrer chez vous, il s'est calmé là. » Alors on encourage les femmes à parler, ça c'est vraiment super et elles le font. Par contre derrière on ne fait plus rien pour elles et ça c'est pas normal.
C'est une grande dame de l'opéra qui s'est éteinte la nuit dernière à Barcelone. Montserrat Caballé est partie à l'âge de 85 ans, pluie d'hommages depuis sa disparition, parmi lesquels celui de la soprano sud-africaine Preti Yende qui pleure, je cite, une légende, une âme merveilleuse. Stéphane Lissner, directeur de l'Opéra de Paris, insiste lui sur la générosité de Montserrat Caballé.
Je pense que c'est une cantatrice hors norme. Je dirais que c'est une artiste exceptionnelle. Et en même temps, c'est une artiste qui est, je dirais, du monde d'avant de l'opéra, si on le compare au monde d'aujourd'hui. C'est une artiste qui va aller de ville en ville défendre le répertoire et avant tout se mettre à la disposition de la musique, du chant. Bah, elle fait partie de cette génération qui n'est pas dans un opéra qu'on pourrait nommer théâtralisé. Elle est avant tout une voix et elle va avoir un comportement assez magnifique d'une certaine manière parce que sa disponibilité pour la musique est totale. Elle dit d'ailleurs souvent je ne suis pas une diva. Ça ne m'intéresse pas d'être une diva, je veux faire bien mon travail. Hein. C'est une femme issue d'un milieu modeste et c'est une femme qui va chanter dans plusieurs villes, parfois sans contrat, simplement avec sa parole. Vous voyez, c'est quelque chose qu'on aurait du mal à retrouver aujourd'hui. Voilà, c'est une grande dame de l'histoire du XXe siècle de l'opéra.
Stéphane Lissner avec Olivia Ferrandi, la météo de demain dimanche, temps pluvieux, notamment sur le quart sud-ouest du pays et sur la Normandie, température minimale comprise demain matin entre 8 et 12 degrés. Cette édition a été préparée avec Caroline Beneteau à la technique Jean Frédérix.